Bonsoir, merci beaucoup à vous toutes et tous d'être ici ce soir. Je m'appelle Aline et je suis secrétaire du GSSA à Genève avec Thomas et Jean qui devraient arriver. Donc on est ici ce soir pour écouter la conférence de Paolo Gilardi. J'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais donc ça a été l'un des porte-parole du GSSA lors de la campagne de 89 et il est, selon ses propres mots, insoumis de toujours et pour toujours. Donc avant de lui donner la parole, je voulais juste vous expliquer ce qui nous a amené au sein du GSSA à organiser 3 événements à l'occasion des 30 ans de l'initiative pour une Suisse sans armée et une politique globale de paix. Fondamentalement, l'idée, c'était pas uniquement de commémorer cet événement qui a profondément marqué l'histoire suisse, mais c'était également de démontrer que le combat antimilitariste, il est encore d'actualité et encore plus que nécessaire aujourd'hui, car les acquis qui ont suivi la votation sont en fait toujours remis en question aujourd'hui. En effet, au niveau national, déjà en 92, le GSSA se battait contre l'acquisition de nouveaux avions de combat. Or, cette année, dans le courant de l'année prochaine, on devra voter de nouveau sur l'acquisition de nouveaux avions de combat pour un chèque de 6 milliards de francs. Cet achat, il est absolument inutile. C'est un gaspillage d'argent, c'est une catastrophe écologique et c'est un projet complètement antidémocratique. Il est donc totalement absurde et c'est la raison pour laquelle nous allons lancer un référendum. Ensuite, il y a la question du service civil qui est également d'actualité puisque le service civil est profondément attaqué aujourd'hui par les autorités qui imputent le manque de popularité de l'armée au service civil et décident de restreindre les conditions d'accès à ce dernier alors qu'il devrait remettre fondamentalement en cause l'institution militaire. Encore cette semaine, la commission politique de sécurité du Conseil national a proposé d'accepter la révision de la loi sur le service civil et on a déjà annoncé notre volonté de soutenir le référendum. Enfin, au niveau international, il y a de nombreux acquis qui sont également en train de... Cette tendance est la même, il y a de nombreux acquis qui sont en train d'être remis en question, comme par exemple l'abandon des grands traités de réduction et d'élimination des armes nucléaires qui avaient été conclus entre l'URSS et les États-Unis. Et sans oublier également l'augmentation croissante des exportations d'armes en Suisse dans les pays à l'étranger. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé 2 initiatives pour nous battre contre cette problématique. Donc pour conclure, l'objectif de ces événements, c'est de revenir sur la campagne de 1989 et sur les différentes actions, projets, initiatives et référendums qui ont suivi pour mieux comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Donc je vais laisser maintenant la parole à Paolo Gilardi qui va donc revenir sur le contexte politique et social dans lequel l'initiative a germé en tant qu'idée, a été lancée puis a été votée. Voilà, merci.
Bravo Aline. Au milieu des années 80, au moment du lancement d'initiative pour une Suisse sans armée, un humoriste roman, Lova Golovchiner, qui faisait sa tartine à la radio suisse romande une fois par semaine ou deux fois par semaine, avait dit « Mais il lance une initiative pour l'abolition de l'armée, mais la Suisse n'a pas d'armée. La Suisse est une armée. » Or, cette boutade de Lova Golovchiner a été reprise en tant que telle par le Conseil fédéral. Le 25 mai 1988, le Conseil fédéral envoie un message aux chambres fédérales dans lequel il explique pourquoi il faut refuser sans contre-projet l'initiative pour une Suisse sans armée et une politique globale de paix, en donnant comme raison la suivante, la maxime « la Suisse n'a pas d'armée, elle est une armée » correspond à une réalité qui fait l'admiration de l'étranger. Et j'ai souligné en bleu cette phrase, la phrase qui suit, c'est la solidarité corporative des débuts de la Confédération, on y reviendra tout à l'heure, l'entraide communautaire qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. 25 mai 1988. Et je crois que le Conseil fédéral avait effectivement raison de dire que la Suisse est une armée. Mais il se trompait sur les temps. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer tout à l'heure. Lova Golovchiner avait... à la même époque, a repris un slogan de mai 68 et il l'avait amélioré à la sauce suisse. Le slogan de mai 68 était le suivant, « Dans chacun de nous, il y a un flic qui sommeille. » Et Lova Golovchiner avait rajouté, « En Suisse, il s'est réveillé. » Et le citoyen soldat, qui est celui sur lequel se fondait cette volonté commune d'aller, de défendre le pays, le citoyen soldat est tenu, d'avoir les yeux bien ouverts et les oreilles alertes. Ce n'est pas moi qui invente. C'est un commandant de corps qui, en 1989, donc pas au Moyen-Âge, en 1989, dit la chose suivante. Chaque Suisse a le devoir, tant pendant le service que dans la vie civile, de garder les yeux bien ouverts et les oreilles alertes dès qu'il a l'impression de percevoir des événements insolites ou suspects. Ces derniers devront être signalés sans hésitation au poste de police le plus proche ou à son propre supérieur militaire. C'est ça ce qu'on appelle le citoyen soldat, l'école de la nation. Et c'est donc en 1988, pas 89, que un journal de la troupe explique exactement ça. Et quelques années plus tôt, en 69, le Conseil fédéral s'était permis de distribuer à tous les foyers de Suisse le petit livre rouge de la défense civile, qui était un véritable manuel de dénonciation de tout ce qui pouvait apparaître comme déviant, secondaire, et laissant supposer que toute activité qui ne correspondait pas à qui était insolite ou suspecte, était digne de dénonciation parce qu'elle pouvait être porteuse de menaces pour la défense nationale. Et c'était au fond ce qu'on appelait l'école de la nation. Une nation qui était dirigée par des mâles bourgeois et gradés. Si on prend la composition du Conseil national, sur les 200 membres entre 1987 et 1991, sur 200 membres, il y a un certain nombre de femmes. Donc, ça modifie évidemment le ratio gradé, mais sur 200 membres, il y a 85 membres du Conseil national qui sont des officiers supérieurs. Je ne dis pas un lieutenant, des officiers supérieurs, c'est-à-dire qui ont un grade supérieur à celui de capitaine. Et parmi eux, évidemment, la part belle est tenue par le Parti libéral radical, par le Parti démocrate chrétien et par l'UDC. Mais on trouve aussi des Verts, des évangélistes, des indépendants, deux écologistes et deux de l'Action nationale et un du Parti des automobilistes. Donc, être gradé est aussi une condition, être bien gradé est une condition pour faire fonctionner ce pays, pour diriger ce pays. Vous ne pouvez pas faire carrière politique, à droite en tout cas, sans avoir un grade militaire quelconque. Et là, je remercie Feu Roger qui nous avait fait cette recherche en 1989. Or, cette armée-là, elle avait trouvé des soutiens évidents au niveau du vote du Conseil national. En décembre 1988, donc moins d'une année avant la votation sur l'armée, lors du vote du Conseil national, 172 députés conseillers nationaux avaient voté contre l'initiative et 11 seulement avaient voté pour, dont 6 PS, donc même pas tous les députés du Parti socialiste l'avaient voté, un des Verts et 4 hors parti, hors fraction parlementaire. Alors que nous, on disait tout simplement, et pourquoi pas ? Une Suisse sans armée, et pourquoi pas ? C'était la grande nouveauté du GSSA, c'était de dire, mais pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Comme Galilée avait dit, et pourquoi elle ne tournerait pas autour du Soleil et pas l'inverse ? Eh bien, nous, sans se prendre pour Galilée, on s'était dit à ce moment-là, why not ? Pourquoi pas ? Et d'ailleurs, le titre de la brochure qu'on avait fait, hein, pour une Suisse sans armée, une politique globale de paix, pourquoi pas ? Or, cette idée-là était évidemment considérée comme de la pure folie. Dans un pays comme la Suisse, et j'y reviendrai tout à l'heure, proposer l'abolition de l'armée, mais c'était être en plein délire. Et être en plein délire, c'est pas moi qui le mets entre guillemets, parce que c'était le titre d'un éditorial écrit par ce monsieur dans le journal de Genève, monsieur Jacques-Simon Aigli, conseiller national libéral, qui écrivait en janvier ou février 1989 un éditorial dans lequel il expliquait que être pour l'abolition de l'armée, c'était être en plein délire. Or, qu'est-ce que c'est que le délire ? Le délire, c'est une aliénation des facultés mentales, des capacités mentales. Donc, ce monsieur qui dénonçait à l'époque la psychiatrisation de l'opposition politique en Union soviétique, il utilisait exactement les mêmes méthodes pour ce qui se passait en Suisse. Vouloir abolir l'armée, penser qu'un pays pouvait exister sans armée, c'était ne plus avoir la pleine possession de ses facultés mentales. Et dans un autre éditorial qu'il a écrit 2 ou 3 semaines plus tard, il s'est posé la question de savoir quel était l'enseignement que pouvait dispenser aux élèves, l'enseignement d'histoire que pouvait dispenser aux élèves genevois, ce professeur, victime de ce délire. Il a posé ouvertement dans la première page du journal de Genève la question de savoir s'il fallait me licencier ou pas. Mais ce n'était pas juste quelque chose qui relevait du délire de Jacques-Simon Aigli. Hein. 10 ans plus tôt, André Froidevaux, qui était un militant antinucléaire et antimilitariste de Suisse alémanique, il enseignait à Zoug. Et il avait été viré de l'enseignement à Zoug, coupable d'avoir distribué, devant la salle de procès où se tenait le procès d'un objecteur de conscience, d'avoir distribué des tracts de soutien à l'objection de conscience. Être objecteur de conscience dans ce pays à la fin des années 70 signifiait être, et on y reviendra, signifiait être un potentiel traître à la patrie, et on vous retirait le droit d'enseigner, d'éduquer les jeunes. Ça, c'était ce qui était derrière cette idée de délire. Or, face à ce délire-là, ok, la droite nous accuse, vous êtes en plein délire, mais même l'idée que nous défendions en tant que GSSA, personne n'y croyait. Et je vais vous prendre deux exemples, je ne sais pas par méchanceté, mais le premier c'est VO Réalité, le journal du Parti du Travail, 30 janvier 1989, donc moins d'une année avant le vote sur l'initiative, le secrétaire général du Parti du Travail, Jean Spielmann, écrit « C'est une initiative irresponsable qui va se transformer en plébiscite en faveur de l'armée, donc elle nous dessert. » Quelques mois plus tard, Régis de Battista et moi allons à une assemblée des délégués de l'Union des syndicats du canton de Genève pour présenter l'initiative et pour proposer que l'Union des syndicats soutienne cette initiative. La réponse qui nous est donnée par le président de l'époque de l'Union des syndicats du canton de Genève est la suivante. Le mouvement syndical a déjà assez de casseroles au cul, on ne va pas s'en rajouter une autre. On ne va pas s'en rajouter une autre. On est dans la première moitié de l'année 1989. 6 mois plus tard, il y aura 1 million de personnes qui vont voter en faveur de l'abolition de l'armée. Donc là, il y a quelque chose. Hein, on est resté croché à un vieux monde. Et d'ailleurs, même au niveau du département militaire fédéral, à l'époque, ça ne s'appelait pas encore département de la défense, des sports, et je ne sais plus du quoi. Au niveau du département militaire fédéral, le nouveau chef du département militaire fédéral, Kaspar Villiger, avait dit 18% de oui serait une véritable catastrophe. 18% de oui. Et d'ailleurs, la presse s'amusait à faire des estimations sur les seuils fatidiques, etc., etc. C'est vrai que 18%, 20%, en dessous de 20%, ça aurait été faire moins bien que la représentation la plus à gauche au Parlement, hein, lors des élections. Et pourtant, le 26 novembre 1989, eh bien, le 26 novembre 1989, on peut présenter les choses comme on veut. Le journal La Suisse, en première page, dit 64% contre l'abolition de l'armée, mais on peut dire aussi 35,4% pour l'abolition de l'armée. Et surtout, il y a 2 cantons, Genève et le Jura. Genève et le Jura qui votent pour l'existence d'un pays sans armée. Sans armée. Et c'est un véritable tremblement de terre qui traverse ce pays. Mais c'est vrai, le Conseil fédéral avait raison. La Suisse moderne était une armée. Elle était une armée d'abord parce que en 1847, quand on a fait la Suisse moderne, c'est suite à une campagne militaire éclair, celle du général Dufour, avec des troupes levées par la Diète fédérale, par les cantons protestants, industrialisés et radicaux, qui avaient levé une armée pour combattre l'alliance du Sonderbund, c'est-à-dire les cantons catholiques conservateurs, qui ne voulaient pas des réformes constitutionnelles qui permettraient d'unifier le marché suisse, helvétique, de supprimer les frontières, d'avoir les mêmes systèmes d'unités de poids et mesure de Sangal à Genève. Il y en avait 13 à ce moment-là. 13 unités de mesure différentes entre le canton de Saint-Gall et le canton de Genève. Pour une bourgeoisie commerçante, industrielle, qui voulait se développer, évidemment, il fallait une autre constitution, il fallait un autre pays. Et cet autre pays a été imposé au canton catholique à travers la guerre du Sonderbund, la révolution helvétique, hein, qui a donné naissance à un pays avec une constitution, un pays dans lequel il y avait une forme organisée de support social à cette nouvelle constitution. Cette forme organisée, c'était les sociétés patriotiques et les sociétés de tir. Il n'y avait pas que les partis, le parti radical ou le parti libéral ou le parti conservateur, mais les sociétés patriotiques, c'était des gens qui se... C'était, si on veut, l'émanation et en même temps le support de ces partis bourgeois, protestants et industriels. Et ces sociétés patriotiques et de tir, lors des fêtes, non seulement les fêtes fédérales de tir, mais certaines fêtes religieuses aussi, défilaient, paradaient dans les villes armées. Et ce serait intéressant de retrouver, mais on retrouve dans les années 70, la télévision suisse romande, Eliane Baïf, journaliste de la télévision suisse romande, avait fait toute une série sur la Suisse, les années de fondation de la Suisse. C'est intéressant de les regarder. Aujourd'hui, les jeunes ne connaissent plus ça. Mais la fondation de la Suisse s'est faite sur un acte militaire, une guerre, et ça s'est fait avec la présence, la multiplication dans la rue, dans la vie de tous les jours, de ces sociétés patriotiques. Donc l'armée, elle est là. À cela s'ajoute un autre élément, c'est que cette Suisse moderne a besoin de transversales alpines, de tunnels alpins. Elle est en train de se développer industriellement. C'est la banque Escher de Zurich qui, avec l'aide de Bismarck, va contribuer à financer le percement du tunnel du Gotthard. Or, il se trouve que dans ce tunnel du Gotthard, qui est en train d'être creusé dans des conditions épouvantables par des ouvriers piémontais, qui viennent du Piémont, qui viennent travailler dans le tunnel. Il n'y a même pas de toilette. Il n'y a même pas de toilette. Ils meurent, hein, ils tombent. Mais quand ils sont malades, on les renvoie au Piémont, ils meurent là-bas. Hein. Ils crèvent au Piémont, mais ils sont là. Et quand ils se mettent en grève en 1875, l'armée est envoyée à l'entrée du tunnel du Gotthard pour mater la grève, et il y a 4 morts et une douzaine d'ouvriers grièvement blessés. De nouveau, on est dans une situation fondation sur la base d'un acte militaire, sociétés militaires qui sont là et déjà intervention pour défendre un certain type de développement, que c'est celui qui correspond aux besoins de la bourgeoisie qui est en train de s'affirmer, la bourgeoisie industrielle et bancaire qui est en train de s'affirmer en Suisse. Ce type d'intervention, évidemment, se multiplie aussi contre les ouvriers en grève à partir durant toute la deuxième moitié du 19e siècle, à Genève, à Lausanne, à Bâle. Il faut que ce pays qui se développe, qui a une nouvelle constitution, puisse se développer. Et donc, quand les grévistes, quand les ouvriers se mettent en grève, eh bien, on les remet au travail avec l'intervention de l'armée. Et en 1918... Autre exemple, durant la grève générale de 1918, l'armée a été employée d'abord pour être envoyée dans les centres des CFF pour mettre le pistolet sur la tempe des mécaniciens de locomotives pour qu'ils mettent les locomotives en marche. Moi, j'avais un collègue de travail, Michel Musy, dont le père avait été cheminot, conducteur de locomotive, et il me racontait ça. Son père lui avait raconté qu'il était à Olten le jour de la grève générale et c'est un lieutenant de l'armée qui lui a posé le flingue sur la tempe en disant « Maintenant, tu mets en route la locomotive et tu la fais partir. » Et non seulement on a dépêché l'armée pour obliger les cheminots à faire fonctionner les locomotives, mais également on a occupé militairement la ville de Zurich avec 20 000 hommes de troupes qui ont été dépêchés à Zurich pour occuper la ville, pour éviter tout trouble dans la ville de Zurich. Là, on est dans une situation où on a d'un côté une armée qui défend certains intérêts et de l'autre des ouvriers qui sont victimes de la politique militaire. Or, ce qui va se passer dans les années qui suivent, qui suivent le tournant du 19e au 20e siècle, c'est la construction de ce qu'on appelle en bon français le Sonderfall Schweiz, c'est-à-dire le cas particulier suisse et la construction du consensus helvétique. Ce consensus helvétique, il fonctionne sur la base de plusieurs éléments. Le premier, c'est l'invention du 1er août. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? 1847-1848, je l'ai dit tout à l'heure, l'armée des cantons industrialisés, protestants, radicaux, se défait des cantons catholiques. On met sur pied la nouvelle constitution, mais entre deux, entre 48 et la fin du 19e siècle, il y a une chose qui se passe, il n'y a pas seulement des grèves, mais en 1881 se constitue une chose qui s'appelle l'Union syndicale suisse, c'est-à-dire que les ouvriers en grève commencent à s'organiser, et en 1891 se fonde le Parti socialiste suisse. C'est-à-dire que les formes de domination politique ne sont plus que le Parti conservateur et le parti libéral radical, mais apparaît quelque chose de nouveau, socialement l'Union syndicale et politiquement le Parti socialiste. Et là, du coup, les élites de ce pays se trouvent confrontées à un problème. C'est comment faire face et comment faire l'unité des élites contre cette nouvelle forme d'opposition qui est en train de naître. Et c'est là qu'on ne peut pas dire que l'histoire, le mythe collectif de la Suisse, on ne peut pas dire au canton catholique, c'est 1847. 1847, vous nous avez fait la guerre, vous nous avez écrasés. Donc il faut chercher ailleurs. Et je reviens sur cette phrase soulignée en bleu au début. On va chercher ailleurs, on va chercher dans un mythique pacte confédéral qui aurait été signé en 1291 et qui marquerait la naissance de la Suisse et de cette volonté inébranlable des Suisses de se défendre, de défendre leur indépendance contre le reste du monde. On a été chercher ça, on invente cette idée du 1er août. On est tous ensemble depuis le Moyen-Âge. Il n'y en a point comme nous, on n'est pas comme les autres. Hein, les autres États-nations se sont formés récemment. Nous, on est là depuis le Moyen-Âge. Deuxième idée, deuxième élément qui participe à la création de ce consensus helvétique, la guerre de 14-18. La guerre de 14-18, il y a des millions de jeunes entre 18 et 30 ans qui sont envoyés à la guerre, qui laissent la vie pour certains, un bras, une jambe, la vue, la raison pour beaucoup d'autres. Or, en Suisse, ces gens-là, ces jeunes-là, on les a mobilisés, on les a envoyés aux frontières, mais ils reviennent tous entiers. Ils reviennent tous entiers. Et malgré les divergences politiques qui existaient entre le général Villet, qui était d'ailleurs le beau-fils de Bismarck, hein, et les romans qui étaient, eux, plutôt philo-français, Villet, lui, voulait que la Suisse rallie l'Allemagne, eh bien, malgré ces tensions-là, la Suisse reste à l'écart de la Première Guerre mondiale, et donc ça donne ce sentiment aussi, ça renforce ce sentiment, il n'y en a point comme nous. Nous, on est quelque chose de particulier, un Sonderfall, un cas spécial suisse. Et cela, évidemment, est conforté par la grève générale de 1918, cette grève générale qui est combattue par une partie du mouvement socialiste et qui permet à la presse et au Conseil fédéral et au patronat suisse d'expliquer que la grève générale, c'était quelque chose d'extérieur à la tradition suisse, que c'était un complot bolchevique et que la Suisse a bien d'autres choses à faire. D'ailleurs, la guerre l'a prouvé. On a bien d'autres choses à faire pour protéger notre cas particulier que de faire des grèves générales. Évidemment, l'aboutissement, je ne parle pas pour le moment du massacre du 9 novembre 32 à Genève, l'aboutissement de ça, c'est 1936, le Parti socialiste suisse décide d'abandonner l'antimilitarisme et le pacifisme qui faisaient partie de son programme pour adopter le principe de la défense nationale. Le Parti socialiste suisse, depuis 1936, est en faveur de la défense nationale, donc de l'existence de l'armée pour défendre le pays et ses institutions, quelles qu'elles soient. Une année plus tard, le Parti communiste suisse adopte exactement la même logique. Donc même dans la classe ouvrière, commence à être introduite cette idée qu'il faudra défendre le pays en cas de guerre. À cela s'ajoute, toujours en juillet 1937, la signature des accords de paix du travail entre le syndicat de l'horlogerie et de la métallurgie et les patrons de l'horlogerie et de la métallurgie, avec évidemment la renonciation, puisqu'on est dans une période de montée des tensions en Europe, la renonciation à la lutte, la renonciation à la grève, hein, point de lutte de classe, on fait autre chose. Ce processus-là se poursuit. 1939, vous avez l'exposition nationale à Zurich. L'exposition nationale à Zurich, moi, je me suis penché sur les reflets filmés de l'époque, et puis il y a quelques bouquins écrits par Monique Pavillon, non, Monique ou Brigitte, je ne sais plus laquelle des deux, sur l'exposition nationale de Zurich. C'est un monument de construction d'icônes de la particularité suisse. On construit des icônes, et cette expo nationale, en Suisse, les expos nationales, la dernière même, hein, il y a des centaines de milliers de personnes qui y vont. Et ça fait effet, ça fait lieu de ciment, de formation d'une identité. En 1941, sort un film en Suisse, que peut-être quelqu'un d'entre vous a eu l'occasion de voir, Gilberte de Courgenay. Gilberte de Courgenay, c'était la serveuse de l'hôtel de la gare, dans un bled du Jura, à Courgenay justement, en 1914, entre 14 et 18. Et cette Gilberte organise, le jour de Noël, une veillée de Noël pour les soldats mobilisés à Courgenay. Et en 1941, on sort un film en vantant justement de nouveau ce peuple uni autour de Gilberte de Courgenay. Allez sur Internet, vous le trouvez, c'est absolument extraordinaire de voir ce... Et évidemment, il y a aussi l'entrée en 1943 du premier socialiste au gouvernement. Donc on élargit. C'est une union sacrée qui s'était fermée dans la propagande, dans les accords de paix du travail, etc. Ben, cette union sacrée, elle se retrouve par la suite dans la formation du gouvernement, donc 1943, l'entrée d'Ernest Nobs au gouvernement fédéral, et surtout, de nouveau, 39-45, la Suisse reste à l'écart de la boucherie européenne et mondiale, et c'est là que naît le mythe du général Guisan. Moi, je me souviens que lors des premières réunions romande du groupe pour une Suisse sans armée, Luc et moi, on avait mangé un soir au buffet de la gare à Lausanne, sous le portrait du général. Et là, en 1989, le vote de 89, si on veut le symboliser comme ça, c'est qu'on a enlevé le portrait du général. C'était ce mythe-là, il était toujours là, le général Guisan. Après, évidemment, il y a eu les années 45-47 avec l'alignement de la Suisse sur le bloc occidental. Il y a une pièce de théâtre de Thomas Hurlimann, qui est le fils de l'ancien conseiller fédéral Hurlimann du PDC. Il fait, je ne sais plus le titre de cette pièce, pièce de théâtre dans laquelle il décrit l'ambiance dans les élites à Berne le 8 mai 1945. Il dit tous les pays d'Europe, dans tous les pays d'Europe, les cloches sonnent pour fêter la fin de la guerre. Il y a un pays où les cloches ne sonnent pas. Elles ne sonnent pas parce qu'on ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement comment se positionner face à cette guerre qui s'est terminée. Et tout de suite, il y a l'alignement de la Suisse sur le camp occidental parce que le département d'État américain, et les Américains, ils ne se gênent pas avec les mots et les gros mots. Le département d'État américain écrit dans toute une série de rapports sur la Deuxième Guerre mondiale, il écrit la phrase suivante, et c'est une phrase assassine: la Suisse a été la putain de la Deuxième Guerre mondiale. La putain de la Deuxième Guerre mondiale. Et malgré tout le discours sur Guisan, etc., les Suisses ont continué à faire du commerce avec l'Allemagne jusqu'en janvier 1944, c'est-à-dire une année après la défaite de Stalingrad. Ça veut dire que même leur opportunisme, leur pif, hein, les opportunistes généralement, ils suivent leur pif, même leur pif ne suivait pas. Donc ils ont un problème et donc ils se rallient au camp occidental. Et il y a une chose qui se passe entre 47 et 48, il y a les accords de Washington où on passe l'éponge sur la Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale, on passe l'éponge. En échange, la Suisse va être le représentant des États-Unis dans toutes les situations conflictuelles avec des pays. Et le premier cas sera le 1er octobre 1949, la Suisse va reconnaître la République populaire chinoise. Et elle va être, jusqu'en 1972, le voyage de Nixon à Pékin, elle va être le représentant, l'intermédiaire des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Et elle l'a fait dans d'autres situations. Ça, c'est un échange de passer l'éponge. Et puis, au niveau intérieur, on passe l'éponge en échange de l'introduction de l'AVS. Les bourgeois avaient systématiquement refusé l'introduction de l'AVS et pour finir, en 1946-1947, devant la pression des socialistes qui disaient « durant la guerre, voilà ce que vous avez fait, etc. », le Parti libéral radical a été d'accord d'imaginer une AVS au rabais, mais quelque chose qui crée aussi une nouvelle spécificité suisse. On est tous ensemble, on fait l'AVS, etc. Et bon, la chose se poursuit évidemment avec l'entrée en 1959 d'un deuxième APS au Conseil fédéral. Et au fond, on est tous sur le même bateau avec l'anticommunisme comme ciment de tous ceux qui sont sur ce même bateau. Ça, c'est la construction de cette Suisse, une armée qui a un esprit d'armée, qui a une cohésion à l'intérieur de cette armée. Sauf que on rappelle à ce moment-là que la Suisse doit être neutre et armée. Neutre et armée, ça a été décidé au Congrès de Vienne. Neutre parce qu'elle ne doit pas s'allier, d'après les accords internationaux, avec une ou l'autre coalition ou puissance en conflit. Mais d'autre part, elle doit être armée parce qu'elle doit être en mesure de protéger son territoire, d'empêcher, on est en 1815, le passage de troupes autrichiennes vers la France ou de la France vers l'Autriche. La Suisse, le plateau suisse étant le corridor, le couloir qui permettrait le plus rapidement de mettre en opposition les deux puissances de l'époque en 1815. Mais c'était en 1815. Donc on a fait de la Suisse un état tampon. C'était en 1815. Or, le monde depuis 1815 avait bien changé. Et on avait beau jeu dans les débats. Avec Jacques-Simon Aigli, le nombre de fois où j'ai débattu avec lui, il disait hey, « mais on a une obligation internationale, obligation internationale 1815. Hein? » 1815 avait fixé l'attribution du Jura au canton de Berne. En 89, le Jura était déjà devenu indépendant. Donc puisqu'on a pu le faire, déroger au traité de Vienne pour le Jura, on peut déroger au traité de Vienne pour d'autres choses. Mais il y avait cette idée de neutralité armée. Neutralité armée qui avait une certaine portée au niveau économique. La Suisse, en 1988, a une armée de 670 000 hommes. C'est une véritable vache à lait. C'est une vache à lait, d'abord, pour l'industrie d'armement nationale, parce qu'elle a des commandes garanties, elle a un socle garanti de commandes. C'est une vache à lait parce que le fonctionnement militaire suisse prévoit ce qu'on appelle les montants compensatoires, c'est-à-dire que si on achète pour 10 millions d'armes aux États-Unis, les États-Unis doivent acheter à l'industrie suisse l'équivalent de 10 millions, ce qui veut dire que c'est avec vos impôts et les miens qu'on achète les armes aux États-Unis, mais c'est aux entreprises suisses, pour les entreprises suisses, que reviennent les 10 millions. Vous voyez le mécanisme? Et là, pour l'achat des avions de combat, les prochains dont parlait Aline tout à l'heure, ce mécanisme est toujours en place. Après, évidemment, il y a des subventions publiques à l'industrie militaire. Comme c'est une industrie stratégique qui doit nous garantir notre neutralité, notre souveraineté, notre intégrité territoriale, eh bien, on peut subventionner cette entreprise-là, alors que les autres accords internationaux combattent les subventions publiques aux entreprises parce que ça fausse la concurrence, etc. C'est, pour l'industrie agroalimentaire, c'est une manne. C'est une manne. Non seulement il y a l'obligation de faire des réserves de guerre. Les gens, moi je me souviens, dans ma famille, on allait systématiquement vérifier le nombre de paquets de pâtes, de sucre et de farine qui étaient dans la réserve. C'est des montagnes de nourriture qui sont stockées, mises de côté et qui garantissent dans le pacte avec la paysannerie, garantissent à la paysannerie un certain revenu. Vous avez là les chiffres, c'est assez impressionnant. En 1990, hein, il y avait quelque chose comme 245 millions de kilos de sucre Hein. 400 000 tonnes de céréales panifiables, sans parler, évidemment, de tout ce qui était fourni directement à l'armée, les biscuits, le chocolat. Vous alliez dans une cuisine de caserne et vous ouvriez l'armoire à nourriture, vous aviez toutes les grandes marques de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de l'alimentation en boîte suisse qui étaient là, stockées. Il y avait de nouveau une commande systématique et un seuil garanti pour l'industrie agroalimentaire. Pour l'économie privée des régions d'implantation des casernes aussi, le boucher, chez qui on commande la viande pour l'école de recrue, le bistrot d'à côté où les soldats peuvent sortir boire des verres, etc. Bon, après, c'est... Hein, pour ces régions, je dis bien, c'est l'économie privée, parce que quand il faut remettre en place les alpages qui sont labourés par les Pinzgauer et les chars d'assaut, là, c'est plus l'économie privée, c'est plus ceux qui touchent les commandes du boucher, etc., qui payent, mais c'est la population. Hein. Et au total, en 1988, le coût de la défense nationale s'élevait, d'après Roger de Disbach, qui était un journaliste sérieux du Journal de Genève, à 10 milliards de francs, c'est-à-dire 27 millions par jour. 27 millions par jour. Et on avait fait un autocollant qui disait « L'armée nous coûte 27 millions par jour » et il y avait le dessin d'un officier qui disait, mettait les mains devant, qui disait « Pshht !» Faut pas le dire. 27 millions par jour. C'est pas un détail. Et cette armée suisse, c'était un véritable monstre. Un véritable monstre. On va regarder juste en termes de comparaison. Je vais pas développer là-dessus. Les États-Unis avaient 3,5 millions d'hommes sous les drapeaux. L'Union soviétique, 25. La France, 860 000. Mais vous me direz, ben, tout ça, c'est des pays qui ne sont pas comparables à la Suisse. Alors regardons. L'Autriche est comparable à la Suisse. Elle avait 177 000 hommes dans son armée. La Suisse, elle, 670 000. Ça veut dire que, alors qu'il y a 0,2 soldats au kilomètre carré aux États-Unis, il y en a 15,2 en Suisse. Il y a juste un pays qui dépasse la Suisse à cette époque. C'est, of course, Israël. Hein. Et en Suisse, il y a en permanence, sauf pendant la période de Noël à Nouvel An, 36 000 hommes sous les drapeaux. 36 000 hommes sous les drapeaux. Et ça va venir dans la réflexion après sur le poids pour les entreprises privées de l'armée et du fait que ces gens-là, les entreprises sont privées en permanence de 36 000 hommes. Moi, je me souviens de mon directeur qui vient vers moi un jour, il me dit « Monsieur Gilardi, c'est pas vous qui voulez abolir l'armée, parce que je dois trouver des remplaçants, il y a les cours de répétition. » C'était Harry. Voilà, c'était un vrai problème qui se posait à un moment donné. Mais on était prêts à faire face. Alors, dans tout ça, il y a eu un début de la fin. Et le début de la fin, c'est pas le mois de mai ou d'avril 1989. Le début de la fin, c'est déjà après la Deuxième Guerre mondiale. Contre le danger rouge, le choix de la Suisse, c'est de faire sa propre petite bombinette atomique. On fait une bombe atomique. Et en 1946, l'ordre est donné secret de développer un programme atomique pour pouvoir fabriquer une bombe suisse, la bombe atomique suisse. Et en juillet 1958, ce n'est plus un ordre secret, c'est un ordre ouvert, publié par le Conseil fédéral, qui dit « Il faut avoir les moyens d'avoir une défense, y compris basée sur les armes atomiques ». Là-dessus, le mouvement pacifiste, en particulier des secteurs de l'Église catholique, lance une initiative pour interdire l'acquisition et la fabrication d'armes atomiques par la Suisse. Il lance une initiative, elle est déposée à la fin de l'année 61 et elle est votée en 1962, 1er avril 1962, c'est pas une farce, et cette initiative est balayée. Hein. 66% des votants votent contre cette initiative. Le département militaire fédéral jubile. Waouh ! Voilà. On peut aller de l'avant, et puisqu'on veut faire la bombe atomique, vous ne la transportez pas avec un coucou, avec un Cessna. Il faut un avion capable de transporter une bombe atomique jusqu'à Moscou. Et en 1964, éclate le scandale des Mirages. C'est quoi ce scandale des Mirages? Tout simplement, il faut cet avion pour porter la bombe atomique au-dessus de Moscou. Donc, on décide un programme d'achat d'armement de, je ne sais plus combien, avions de combat de Dassault, les Mirages, pour l'équivalent de 800 millions de francs. Or, le département militaire fédéral est tellement convaincu qu'il peut tout faire, parce que hein, le peuple nous a donné un blanc-seing pas plus qu'il y a, il y a 2 ans, ben on y va. Et la facture explose, elle arrive à quelque chose comme 1 milliard et 700 millions. Et c'est un gros scandale, parce qu'à ce moment-là, vous avez un gros problème avec la paysannerie en Suisse, les paysans qui sont devant le Conseil fédéral et qui balancent des bouses de vaches sur le palais fédéral parce qu'il y a un problème de prix du lait. Donc d'un coup, on est dans une situation où, d'un côté pour l'armée, on dépasse allègrement, on double les dépenses prévues, et là-dessus, c'est d'abord le chef de l'armée qui saute. En 64, le chef de l'armée est obligé de démissionner. Et surtout, 2 ans plus tard, c'est Paul Chaudet, le vigneron vaudois libéral radical, qui était chef du département militaire fédéral, qui doit sauter. Dans un pays qui se conçoit comme une armée, dans lequel tout citoyen est un soldat, eh bien c'est le chef de l'armée et le chef politique de l'armée qui saute. C'est le début, à mon avis, de ce qui s'est passé par la suite. Et ceci dit, le projet atomique, malgré cela, le projet atomique sera abandonné définitivement qu'en 1988. En 1988. Donc, c'est-à-dire 5 ans après la signature des derniers accords de désarmement nucléaire. La Suisse a continué. Deuxième élément, dans les années 60, la télévision se généralise, elle va équiper tous les foyers de ce pays. Et à l'époque, la SSR a le monopole. Ce qui veut dire que vous n'échappez pas à un journal télévisé. À un moment ou l'autre, le journal télévisé, vous ne pouvez pas zapper sur la chaîne qui diffuse des films ou des séries. Le journal télévisé, vous l'avez. Et qu'est-ce qu'on voit à la télévision tous les soirs? On voit ces images-là. C'est à la télé, pendant qu'on est à table, que toute une génération, la mienne, celle de la plupart d'entre nous ici, a vu en direct la guerre, ce qu'est la guerre. Et ce mythe de cette armée des États-Unis qui était venue nous défendre contre le nazisme, etc., elle en prend un coup et il y a une jeunesse, toute une génération, qui devant ces horreurs, commence à se mobiliser et les premières manifestations contre la guerre du Vietnam commencent avec les marches de Pâques en 1966-67 et puis ça va donner un développement à l'échelle internationale et donc aussi en Suisse d'un sentiment anti-guerre, pacifiste et antimilitariste. On rajoute à ça quelque chose qui va se passer à la fin des années 60, c'est qu'il y a un certain nombre de recherches historiques faites par des historiens sérieux qui remettent en doute complètement tout le mythe de la défense nationale durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a les travaux d'Hans-Ulrich Jost d'abord, publié à ce moment-là « La nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses » et Hans-Ulrich Jost, historien à l'Université de Lausanne, qui n'est pas un antimilitariste, je me suis pris de bec à plusieurs reprises avec lui parce qu'il croit à l'armée. Hein. Hans-Ulrich Jost a mis clairement en évidence le fait que dans les années 39 à 45, c'était la complicité avec l'Allemagne nazie, c'était les intérêts économiques qui ont déterminé la politique de la Suisse, et que si Hitler avait voulu prendre la Suisse, il n'aurait pas fallu plus que quelques jours pour prendre la Suisse, mais que ça avait été un choix de ne pas envahir la Suisse, ça avait été un choix fait, planifié par l'état-major de la Wehrmacht, parce que la Suisse était plus utile, neutre et indépendante, notamment pour écouler l'or allemand que plus personne ne voulait, hein, sur le marché international, pour rendre des services à l'Allemagne. Jost, il met en évidence ça, de même que Werner Ring, qui publie un livre qui s'appelle « L'or des nazis », ou un autre historien, Jean-Bernard Moreau, qui va écrire un petit livre, et Max Frisch, le plus grand dramaturge de langue allemande, Max Frisch, prix Schiller, il publie « Livret de service », un petit livre où, à la Frisch, hein, il démonte totalement tout ce discours sur le rôle de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, le mythe en prend un sacré coup. Regardez le titre du bouquin de Jean-Bernard Moreau, « Du bonheur d'être Suisse sous Hitler ». Du bonheur d'être Suisse sous Hitler. Ces choses-là, dans cette Suisse de la fin des années 60, elles vont agiter les consciences, les gens vont réfléchir. D'autant plus que mai 68 passe par là, la jeunesse est contre l'armée. Mais mai 68, ce n'est pas uniquement Berkeley ou la Sorbonne. Mai 68, c'est une vague de fond qui traverse la planète, qui a des éléments clairs, comme le pacifisme, l'anti-autoritarisme, l'antimilitarisme. Et en Suisse aussi, ces éléments se manifestent publiquement. À Genève, le 13 mai 1968, il y a une manifestation spontanée ou quasi spontanée de collégiens et d'étudiants. Il y a 3000 personnes dans la rue pour protester contre les journées militaires organisées par le Conseil d'État avec démonstration de force de l'armée dans les écoles, dans les préaux d'école où ils montrent la manipulation des armes, etc. Et vous avez là, moi j'ai revu les photos l'autre jour, ça m'a fait... Éric Descarreaux, hein, qui porte une banderole, décédé il y a 2 ans, malheureusement. Cette génération-là, elle est là, elle est dans la rue, 13 mai 1968 à Genève. À Zurich, le 27 juin, c'est ce qu'on appelle le Globus Krawall, le meute du Globus. En septembre 1967, il y avait eu à Zurich un concert des Rolling Stones. Et à la sortie de ce concert, la police avait chargé brutalement les jeunes qui sortaient hyper excités après avoir écouté Mick Jagger, etc. Ils sont chargés par la police. Et ça crée à Zurich et dans le canton de Zurich tout un truc, ça passe pas. Ça passe pas. Que nos gamins soient chargés par la police de cette manière et en même temps que nos gamins se comportent de cette manière en allant écouter ce Mick Jagger. Ça agite la société zurichoise. Et là-dessus est posé le problème de l'existence d'un centre autonome de la jeunesse. Et il y a un local, un lieu, le Globus à Zurich, ancien magasin Globus, qui est vide. Et les jeunes l'occupent, et c'est l'émeute le 27 juin 1968, l'émeute à Zurich. Or, cette émeute-là, elle n'est pas que contre la police ou contre l'autorité, c'est pas que contre l'autorité de papa. C'est contre l'autorité de la police, mais c'est contre l'institution qui est autoritaire par définition, c'est l'armée. Et donc, de nouveau, ce mythe du pays en armes, uni, soudé autour de sa volonté de se défendre, en prend encore un sacré petit coup. Ensuite, 1972, il y a la réexhumation, la redécouverte du massacre du 9 novembre 1932. Et il y a la grande manif pour les 40 ans, alors qu'on n'en faisait plus, on a tout fait pour faire oublier ça. On a tout fait pour faire oublier le massacre de 1932. Hein, on n'en parlait plus, même les livres d'histoire, pas important. Et en 72, il y a la jeunesse dans la rue, mais pas seulement. Le Parti Socialiste suit, c'est Michel Joriman qui était là pour le Parti Socialiste, le Parti Socialiste suit, le Parti du Travail, qui était le Parti des Fusillés, évidemment, suit, et c'est une grosse manifestation. Du coup, on remet sur la table ce qu'a été vraiment, ce qu'a été l'histoire militaire de ce pays, l'histoire sociale de ce pays. Et puis, vous avez le problème de l'objection de conscience. Les objecteurs, en 1956, il y en a 22. En 1984, il y en a 788. C'est-à-dire que la courbe du nombre d'objecteurs de conscience est l'expression aussi de cette désaffection par rapport à la chose militaire. Et dans les écoles de recrues, les conscrits organisent des comités de soldats. Il y a des comités de soldats qui s'organisent pratiquement... 74, il y avait pratiquement dans toutes les écoles de recrues de Suisse des comités de soldats. Moi, j'avais passé mon été à Lucerne pour aider le comité, les troupes tessinoises qui étaient dans le comité de soldats à Lucerne. J'allais les voir le soir quand ils sortaient boire les verres. Ils me donnaient les informations. J'écrivais le tract. J'imprimais le tract. Et le lendemain ou le surlendemain, on leur donnait. Et ils le distribuaient pas. Ils le collaient sur les parois des toilettes à l'intérieur de la caserne. Mais la contestation de la chose militaire se fait aussi à l'intérieur des casernes et ces comités de soldats, pendant 4 ou 5 ans, connaîtront même l'existence d'une coordination nationale. Ils sont coordonnés à l'échelle du pays. Et on discute ensemble les initiatives au niveau de la coordination nationale des comités de soldats, où on ne discute pas seulement la discipline militaire, l'heure de réveil, etc., mais la finalité, la fonction de l'armée. Et là, de nouveau, il y a quelque chose qui change dans ce pays. Maintenant, il y a un autre élément qui entre en ligne de compte dans les années, au début des années 70, c'est qu'il y a d'autres coups de canif qui sont portés à l'Union sacrée. En 1970, il y a deux événements qui, c'est des éclairs dans un ciel bleu, il y a des grèves à Genève et au Tessin. Des grèves qui sont faites par des ouvriers contre l'avis des syndicats, contre l'avis des directions syndicales. En 1972, toujours à Genève, hein, il y a une vague de grèves dans la métallurgie genevoise. Ça avait commencé par une grève des ouvriers immigrés espagnols, qui, eux, avaient une autre tradition que celle de la paix du travail. Hein, c'était la grève des saisonniers espagnols. Et par la suite, des militants du Parti communiste italien, des syndicats italiens qui étaient émigrés ici, hein, se sont mis là-dedans, et ça a été une vague de grève en 1972 dans la métallurgie genevoise. Du coup, hein, ce pays uni autour de son armée, il commence à prendre des coups. 74-75, au milieu des années 70, donc, il y a une série de grèves à Matiza, Dubier, Burger et Jacobi. En 1977, les typos à Genève se mettent en grève et ils obtiennent la réduction du temps de travail, l'introduction des 40 heures. En 1981, c'est la grève générale dans tout le pays des arts graphiques. Moi, je me souviens qu'on avait passé la nuit à faire les piquets de grève devant la Suisse pour empêcher les camions de sortir parce que c'était les chefs qui imprimaient le journal. Donc, on n'est plus vraiment tous sur le même bateau. Et ça va poser un problème. Ça va poser un problème parce que l'ennemi, en Suisse, continue d'être intérieur. En 1968, du 18 octobre au 18 novembre, le canton du Jura est occupé militairement par la troupe. Le Conseil fédéral devant le Jura, qui demande l'indépendance du Jura par rapport au canton de Berne, la réponse du Conseil fédéral, c'est d'envoyer la troupe. On se demande après pourquoi, en 89, le Jura votera pour l'abolition de l'armée. Hein. Voilà. On envoie la troupe au Jura. En automne 1975, le chantier de construction de la centrale nucléaire de Kaiserhausen est occupé par des milliers de jeunes. On retrouve le même André Froidevaux dont je parlais tout à l'heure, licencié à Zoug dans les années 70. Ils occupent le chantier pour empêcher la construction de la centrale. C'est-à-dire, ils font quelque chose auquel Doris Leuthard s'est résolu il y a 5 ans, c'est-à-dire sortir du nucléaire. Eux, ils voulaient empêcher d'entrer dans le nucléaire. Et là, le Conseil fédéral évoque la possibilité d'envoyer l'armée à Kaiserhausen. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savaient que l'armée n'était pas préparée pour ça. Et ils avaient peur qu'à l'intérieur de l'armée, il y ait des sympathies qui se développent vis-à-vis de ce mouvement à Kaiserhausen. Et surtout, on découvre à la fin des années 80 que 15% de la population a été fichée par la police fédérale. L'ennemi, il est là. L'ennemi, il est là. On donne très clairement, dans ce pays fait, qui est une armée unie, disciplinée, etc., que l'ennemi, il est intérieur. D'ailleurs, l'armée suisse n'a jamais tiré sur un ennemi extérieur. Elle n'a tiré que sur des citoyens suisses ou des gens qui vivaient en Suisse. Et en plus, il y a les scénarii des exercices généraux. Qu'est-ce que c'est qu'un exercice général à l'époque? Tous les 2 ans, toute l'armée faisait un exercice général de mobilisation sur la base d'un scénario qui était fixé par l'état-major. Et l'état-major avait toujours des scénarii assez intéressants. Je prends celui de 1980. Il ne donne pas que la mesure du délire d'une mentalité militaire. Il donne aussi la mesure de qui est l'ennemi intérieur. 1980, le scénario est le suivant. Les troupes du pacte de Varsovie, donc de l'Union soviétique et de ses alliés, sont entrées en Yougoslavie. L'Italie, devenue communiste, autorise leur passage sur son territoire. Et donc voilà les crocs du plantigrade soviétique plantés dans le Tessin. Il est là. Et Berne est soumise à des bombardements nucléaires. Donc l'armée est mobilisée. L'armée est mobilisée. Elle est mobilisée pour quoi faire? pour réprimer des manifestations de femmes à Genève, à Bâle et à Zurich qui exigent le retour de leurs hommes à la maison. Donc elle n'est pas mobilisée contre les troupes qui sont au Tessin, qui mordent. Hein. Elle est mobilisée contre le personnel de la fabrique de munitions d'Altorf qui s'est mis en grève. De nouveau, c'est très clair, c'est évident, qui est l'ennemi. Un comité d'officiers progressistes s'est constitué à Stefa. Je ne sais plus dans quel canton c'est, Stefa, mais ce n'est pas la Suisse la plus progressiste. Zurich, voilà. Et Wilisau, pour la création d'une république populaire helvétique. L'imagination, elle est là. Mais, par conséquent, le Conseil fédéral interdit, dissout le Parti suisse du travail, la Ligue marxiste révolutionnaire, c'est-à-dire deux partis qui existent, et le Parti des immigrés, un parti qui n'existe pas, mais qui donne bien dans la construction de l'ennemi, voilà où est l'ennemi. Ce sont les salariés qui se battent, les femmes, et les partis qui les représentent, et évidemment le complexe, le complot bolchevique, hein, les immigrés, Parti des immigrés. Donc, de nouveau, c'est une remise en cause de cette brave Suisse, et ça, bon, c'est Daniel Kunzi qui nous avait fait un texte, qui s'appelait « Roman noir, un grivaire », qui nous détaillait ces choses-là, je l'ai retrouvé, voilà. Et puis, à l'échelle internationale, se passe au début des années 80 quelque chose qui va donner un sacré coup aussi à cette mentalité militariste. C'est, je le résume par ce slogan qui était crié en Allemagne en 82-83, « Lieber rote als tote »,« Mieux rouge que mort ». Pourquoi ? Pourquoi ce slogan ? Parce que, en décembre 1979, le cadeau de Noël du sommet de l'OTAN est le suivant, augmentation des budgets militaires de tous les pays de l'OTAN et déploiement des missiles Cruise et Pershing en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Turquie, en Espagne, pointés sur l'Union soviétique. Union soviétique d'où, je ne sais plus combien, je crois, 2000 et 1620, aussi à tête nucléaire, sont pointés sur l'Europe. Donc du coup, c'est l'Europe qui aurait été le théâtre d'une guerre nucléaire entre les deux super grandes puissances, l'Union soviétique. Et là-dessus, il y a des gens qui commencent à se mobiliser, à descendre dans la rue. D'autant plus qu'en 1981, les États-Unis élisent un nouveau président, un dénommé Ronald Reagan, qui prend tout de suite une première décision. Il lance le projet de fabrication de la bombe à neutrons. Alors la bombe à neutrons, techniquement, mais elle a une particularité. La bombe à neutrons, pour le résumer de cette manière, c'est la bombe qui détruit la vie, mais pas les choses. Elle a un souffle, une déflagration moins importante que la bombe atomique, donc elle diffuse les radiations, elle détruit la vie, mais elle ne détruit pas les infrastructures nécessaires à réoccuper le pays une fois que tu l'as battu militairement. Et ça, quand les gens entendent ça, la bombe, elle est faite pour détruire la vie, mais pas les installations qu'on pourra récupérer. Ça fait réfléchir les gens. Et il lance aussi le programme de la guerre des étoiles, un programme qui coûte énormément d'argent, ce qui suscite les premières réactions. Décembre 82, 1 million de jeunes, essentiellement, dans les rues de New York, contre le danger de guerre atomique. Et en Europe, 82-83, notamment ce week-end du 22-23 octobre 83, vous avez des millions de personnes qui sont descendues dans la rue en Europe. Des millions de personnes en Allemagne. Moi, j'arrivais à Rome le 23 octobre en voyage de noces, parce que je m'étais marié la veille, et la ville était totalement bloquée par un million de personnes qui manifestaient dans la rue à Rome. Et donc, toute cette idée d'un développement qui allait se baser sur la coexistence pacifique, etc., on avait concrètement, on savait ce que c'était. Les arsenaux atomiques qui étaient dans les mains des grands pays atomiques au début des années 80 auraient permis de détruire 40 fois la Terre. 40 fois la Terre. Et là-dessus, évidemment, les gens se sont mobilisés. Et en Suisse aussi, se sont mobilisés. Et il y a eu deux manifestations importantes à Berne. Et à la fin de la deuxième manifestation, il y a eu un slogan qui a ressurgi des mobilisations des jeunes de Zurich 2 ans plus tôt. Leur truc, c'était « Aber subito ». mais tout de suite. Un bon allemand, Haber, mais tout de suite. C'était, il voulait un centre de jeunes, un centre autonome, tout de suite. Et ce truc-là, ça a été, mais tout de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout de suite, en Suisse? Et là, je pense que ça a été la grande intelligence d'Andreas Gross, qu'on a présenté comme le père du GSSA, c'était de comprendre que ce Haber subito, mais tout de suite, ça pouvait vouloir dire, puisqu'on a l'outil de l'initiative populaire, autant s'en servir pour le désarmement. En Allemagne, en Italie, on est obligé de descendre dans la rue pour obtenir le désarmement. Là, on a quelque chose, on lance une initiative. Et puisque toute tentative de remettre en cause les dépenses militaires est taxée par le gouvernement fédéral comme une tentative d'abolir l'armée, autant lancer tout de suite une initiative pour l'abolition de l'armée. D'autant plus qu'on se trouve face à de nouveaux défis. À l'époque, on l'appelait la pollution. On ne parlait pas directement de réchauffement climatique, on parlait de la pollution. Il y avait les migrations humaines, les famines. Je rappelle qu'en 69, la famine au Biafra, où le Nigeria utilisait des armes suisses, ben, pendant cette année 69, avec cette famine au Biafra, il y avait un monsieur qui s'appelait Dieter Burle, patron de la principale industrie d'armement suisse, qui était président de la commission de l'armement du Conseil national. C'est pas mal, hein? C'est comme si je mettais le principal voleur à la tête de la banque nationale. Et puis, il y avait un autre défi, qui est le défi technologique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la date et l'heure. Mais Anne-Cécile me dira exactement ce que c'est. C'est le 26 avril 1986, c'est Tchernobyl. Contre cela, est-ce que les vieilles recettes vont permettre de faire face à ces défis-là? Est-ce que les frontières vont arrêter l'atome? En France, oui. Il paraît qu'en France, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à Saint-Julien. Mais bon... Et ça fait rire bien de gens. Est-ce qu'on va protéger l'environnement avec des Pinzgauer? Vous savez, c'est tout terrain qu'utilisait l'armée. Ils allaient dans les alpages, etc. Et surtout, à cette époque, on a encore la théorie du réduit national. Si le pays est attaqué, l'armée va se retirer dans le réduit national, c'est-à-dire dans les Alpes. Et là, elle fera payer très cher l'occupation à l'ennemi. La notion de faire payer très cher, elle était là. On se retire dans le réduit national, ce qui voulait dire que 85% de la population, celle qui vit sur le plateau, aurait été livrée à l'ennemi. Mais voilà, ce qu'on construisait encore en 1988, les Toblerones dans les Alpes, pour rendre la vie difficile à l'ennemi, dans les Alpes, avec la majorité de la population qui était en dehors. Et puis, toujours dans ces années 70 et 80, il y a la question de l'objection de conscience. Objection de conscience avec Luc, il s'en souvient, le débat qu'on a eu, le premier débat ici à Genève avec M. Gérard Ramseyer. Quelqu'un a posé à Ramseyer, qui était aspirant conseiller d'État à l'époque. Il parlait des traîtres et les traîtres ont les fusils. Et quelqu'un a posé depuis la salle la question à Ramseyer. Et puis, un objecteur de conscience, c'est quoi pour vous? Il dit, c'est un déserteur, c'est un traître. On ne les fusillait pas en Suisse. Mais, bon an, mal an, entre 1984 et 1988, on a condamné chaque année des jeunes à l'équivalent de 800 ans de prison. 800 ans de prison. Si vous additionnez tous les... De prison ferme. La question de l'objection de conscience et de la répression des objecteurs ou de ceux qui ne payaient pas la taxe militaire. Raymond, il s'est fait arrêter à l'aéroport en revenant de Katmandou, je ne sais pas où, parce qu'il n'avait pas payé sa taxe militaire. On allait le chercher. Donc il y a un vrai problème, parce qu'en plus, ces gens-là étaient condamnés par des tribunaux militaires qui étaient juges et partis. C'était l'armée qui prenait l'initiative de poursuite contre celui qui ne respectait pas l'obligation de servir, mais c'était l'armée qui le jugeait. Et vous aviez des gens qui étaient en tôle, avec des droits communs, y compris avec des meurtriers et des assassins, Et eux, ils n'étaient coupables que d'une chose. Ils étaient coupables d'avoir voulu refuser d'apprendre à tuer. Et là, je vous mets juste l'extrait d'une lettre d'une mère dans la Tribune de Genève en 1989 qui raconte ce qui est arrivé à son fils. Ce truc-là, c'est un truc qui a marqué les consciences, ces condamnations des objecteurs, ces objecteurs qui ne voulaient pas faire partie d'un peuple uni qui défendait ses libertés. Alors justement, ce peuple uni qui défendait ses libertés, ils n'y croyaient même pas eux-mêmes. Je commence par une citation de Bilanz, qui n'est pas un brûlot gauchiste, hein, c'est le journal des banquiers suisses. Bilanz, en juin 1985, écrit « Un peuple uni avec des exceptions. Tout ce qui a un nom et un titre dans l'économie helvétique ne serait pas dans un bunker en cas de guerre, mais bien plutôt un exil sûr. » Voilà ce qu'écrit Bilanz. Et pourquoi il écrit ça? Parce qu'un accord a été signé entre le Conseil fédéral et le gouvernement canadien pour que, en cas de conflit en Suisse, il y ait transfert automatique du siège du gouvernement suisse et des principaux conseils d'administration des banques et de l'industrie chimique dans l'état du Nouveau-Brunswick au Canada. Ça veut dire qu'ils ne croyaient pas que l'armée était en mesure de défendre le pays. Ça, ils le racontaient aux gens. Et on punissait, on mettait en taule des gens qui ne voulaient pas y participer. Mais eux-mêmes, ils s'étaient déjà prémunis contre ça. Deux, c'est qu'on découvre l'existence, la formation par des super patriotes, par les mêmes qui sont là dans les débats publics, face à moi, face à Luc, face à Tobia, à dire non, non, la défense, notre armée est capable, etc. Eux, ils ont mis sur pied une armée secrète, deux organisations secrètes, la P26 et la P27, qui sont censées assurer la défense du pays, parce que l'armée n'est pas capable de le faire. Et ils ont même prévu, alors là c'est extraordinaire, ce monsieur Jacques-Simon Aigli qui voulait que je posais des questions sur mes capacités mentales et mes capacités d'enseigner, ce même Jacques-Simon Aigli qui faisait partie de la P27, il faisait partie d'une organisation qui avait dressé une liste des gens à interner au parc des Bastions en cas de conflit sur lequel je figurais. Ils avaient prévu de nous interner au parc des Bastions. Ces choses-là, elles sortent à la fin des années 80. Et ça montre qu'ils ne croient pas à la capacité de défense. Et à droite, il y a des gens intelligents comme Claude Monnier qui continue à être un chroniqueur dans le temps. Et non, dans la Tribune aussi, il écrit des choses. Claude Monnier, il y va avec une franchise absolue au mois d'avril, au mai 1989. Il écrit un truc en disant « L'armée suisse ?» Nous défendre contre les Russes, mais baliverne. Jamais elle sera capable de faire ça. L'armée suisse ne sert strictement à rien, si ce n'est à une chose. Et c'est pour ça qu'il faut la garder. Elle nous permet, une fois par an, à nous les Suisses, quand il dit nous les Suisses, c'était les hommes, hein, à nous les Suisses, de nous rencontrer sous les drapeaux et de nous rendre compte qu'on fait tous partie du même pays. On exclut déjà la moitié de la population, les femmes, et puis deux, si se reconnaître partie du même pays, du même projet, ça coûte 10 milliards par an, et c'est pour apprendre à tuer, joli projet. Donc, eux-mêmes, ils n'y croient pas. Et, à un moment donné, il y a quelque chose en 1987 qui nous dit que ça va exploser, qu'il va y avoir quelque chose de gros qui va se passer. Et en 1986, il y a le dépôt d'une initiative fédérale pour la sauvegarde des marais, qui veut modifier la Constitution fédérale et introduire l'interdiction de construction sur des marais de certaine importance, d'une beauté particulière et présentant un intérêt national. Là-dessus, la chose vise une chose, elle vise les marais de Rothenturm entre Schwyz et Zoug, hein, entre Schwyz et Zoug, où l'armée est en train de veut construire des casernes et des terrains d'exercice. Et l'initiative est soumise au vote le 6 décembre 87 et elle obtient 58% de oui. 58% de oui, avec des cantons comme Genève, comme Bâle, qui frisent 70%, 69,9% à Bâle. C'est-à-dire qu'il y a 17 cantons et 6 demi-cantons qui l'ont approuvé. Mais ça veut dire que les batraciens, que quand les batraciens deviennent plus importants que l'armée, il y a un problème. Il y a un problème. Et je donnerai un dernier élément avant de venir au vote. Gorbi. En 1985, Gorbatchev devient premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique et principal dirigeant de l'Union soviétique. Et Gorbatchev, avec son équipe, il comprend une chose. Il dit, l'Union soviétique, si on veut sauver quelque chose encore à l'Union soviétique, il faut qu'on arrête de dépenser un quart de la richesse produite pour la course aux armements. Et Gorbatchev commence à désarmer. Il prend des mesures de désarmement et il provoque les rencontres avec Reagan ici à Genève et la signature, en 1983, il provoque la signature des accords de désarmement stratégique sur les armes nucléaires. Le problème, c'est que quand ton ennemi désarme, toi, tu fais quoi? Et ça, c'était le problème qui était posé en Suisse. Et on arrive en 1989, au moment du vote de l'initiative sur une Suisse sans armée, avec exactement la situation suivante. On a une situation qui est grosse, qui est gravide de remise en cause. On n'est plus dans la Suisse des années 50 et 60. On est dans une Suisse qui a changé. Et le GSSA, dans cette situation de grossesse, le GSSA a joué la coucheuse et c'est ce qui a permis. Il a joué la coucheuse dans le sens de, il a été capable, en proposant sa campagne, les thèmes de campagne, et c'est pour ça que j'ai mis l'extrait du tract qu'on avait distribué à 1,5 million d'exemplaires en Suisse romande en 1989. On avait su montrer toutes ces différentes facettes de la crise. Je l'ai ici, je peux vous le montrer après. Les différentes facettes de la crise et qui a permis cette cristallisation en... novembre, le 26 novembre 1989, donc il y a 30 ans. C'était la fin, mais il y aura une suite. J'ai terminé.